Radio Okapi.
Je suis Moussa Oupondé pour le journal.
Fraude des minerais au Nord Kivu. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière dit avoir du mal à bien travailler sur terrain. Cela suite aux interférences de certains hauts responsables politiques, militaires et administratifs. Reprise des cours ces jeudis après des tensions hier et avant-hier à l'université de Bounia. La concession Kéréli reste un bien de cet établissement, affirme le gouverneur de l'Ituri. Et les 7 étudiants arrêtés pendant les manifestations seraient transférés au parquet. Au menu de la seconde partie de cette édition, le dossier, la revue de presse et l'actualité sportive. Bonjour à tous. Commençons au Nord Kivu. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière dénonce et qu'elle qualifie de trafic d'influence de quelques responsables politiques, militaires et administratifs lors de saisies des minerais frauduleux. Ainsi, un officier militaire est actuellement en détention depuis environ 3 mois pour avoir tenté de faire passer 600 kilos de coltan vers le Rwanda. Depuis, cette commission dit subir des pressions de certains hauts gradés de l'armée. Daniel Ngoy Mbayo, responsable de la CNRS, LFM au Nord Kivu, dit être bloqué et affirme que ses pratiques limitent sur le terrain ses actions de lutte contre la fraude minière. Il explique ici au micro de Gabriel Omigna.
Cette tâche que nous avons, j'ai du mal à ne pas vous dire à ce stade qu'il n'y a pas trafic d'influence. Il y a fortement trafic d'influence politique, administrative et même technique. Vous attrapez quelqu'un qui fait la fraude fiscale, qui amène de l'argent au niveau de chez nous ici, il passe par la douane pour venir acheter des minerais de fraude, c'est son directeur qui intervient. Et ça réduit sensiblement nos efforts de terrain. Nous nous appuyons sur les hommes de troupes qui sont censés nous aider, ou nos agents qui sont sur terrain, mais ce sont ces agents-là qui sont sous protection de leur chef. J'ai des cas comme ça où je suis bloqué parce que c'est un acteur politique qui interfère, soit c'est un acteur militaire, soit c'est un acteur administratif, soit c'est un acteur technique. Toute la justice, toute la démarche est bâclée parce que son général a intervenu. Voilà la difficulté que nous avons sur ce plan-là. C'est ainsi que nous profitons pour donner un appel, demander à tout le monde de laisser les trafics d'influence pour que nos minerais puissent profiter à la République.
Par ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, un véhicule d'une société de gardiennage contenant une cargaison importante de minerais a été saisi par le service de sécurité à Goma, a ajouté le même responsable. Ouverture, c'est jeudi, dans la ville de Mbarara, en Ouganda, d'une réunion régionale bilatérale entre la RDC et l'Ouganda. C'est le vice-ministre ougandais des Affaires étrangères qui a ouvert cette rencontre. Selon les sources officielles, au cours de cette réunion, sera également discutée la question du groupe armé ADF actif dans le territoire de Beni. Martial Papimoukeba pour les détails.
Cette réunion régionale bilatérale qui durera 4 jours se tient entre les districts sud-ouest ougandais de Rubirizi, Kisoro, Kanungu, Rukingiri, Bundibujo, Toroko, Kasese et de la province congolaise du Nord Kivu. La délégation congolaise à ses assises est composée d'une 20aine de personnes et est conduite par les vice-gouverneurs du Nord Kivu. Selon des sources officielles, certains officiers supérieurs de la 34e région militaire des FRDC et des opérations Sokola 1 ainsi que de la police nationale congolaises prennent part également à cette réunion. D'après la même source, outre les questions bilatérales entre les districts sud-ouest ougandais et la province du Nord Kivu, les délégations ougandaises et congolaises aborderont également la question de l'ADF. Toutefois, selon d'autres sources sécuritaires, depuis quelques jours, il y aurait déjà des réflexions et des discussions entre les FRDC et l'armée ougandaise pour des opérations conjointes pour la neutralisation de ces groupes armés actifs dans les territoires de Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nous venons de l'apprendre au sud Kivu, des combats ayant opposé des groupes armés locaux Banyamulenge et Bafuliru, coalisés au Banindu, ont fait 5 morts et 10 blessés de part et d'autre dans le groupement de Bijombo. Ces combats se sont déroulés lundi dernier dans le haut plateau du territoire d'Ouvira. Les représentants de ces communautés locales ont rencontré la MONUSCO ces jeudis à Ouvira pour solliciter l'évacuation des blessés de cette région enclavée pour des soins appropriés vers Ouvira. Mais sur place dans le haut plateau, selon des sources locales, les combats se poursuivent encore en ce moment dans les villages de Kihamba, Fistongoma.
Le représentant de la communauté Banyamulenge, Seba Ozasekunzi, et celui de la communauté Bafuliru, Adolphe Kadusa, affirment que plusieurs villages sont vidés de leurs habitants. Ces derniers ont pris plusieurs directions. Certains ont quitté Kagogo pour Kianzovu, d'autres Dishenge vers Kateja, de Murambi et Kirumba vers Karunga, de Kauna vers Mugeti et Kateja. Des informations fiables font état d'un pillage systématique hier de vaches et chèvres de la population de Kihamba par le belligérant. Ces combats qui ont commencé lundi dernier au village de Kauna font suite à l'assassinat la semaine dernière d'un pasteur d'une église locale dans le village de Kibogeri. Les membres de sa communauté, voulant aller mener des investigations sur le lieu du crime, ont été interceptés sur leur parcours par une milice. Celle-ci n'a pas accepté que des civils s'investissent dans un dossier qui est sous traitement par les instances étatiques locales. Dans la dispute, des échanges de tirs ont commencé. 5 parmi les belligérants sont morts sur le champ. Les blessés estimés à 10 sont dans un état grave, affirment des sources locales. Pour rappel, l'administration parallèle, l'une tenue par le Banyamulenge et l'autre par les communautés Bafuliru et Banyindu, serait à l'origine des conflits ethniques dans la région de Bijombo. Les forces loyalistes déployées dans la région n'ont pas reçu mandat de neutraliser ni l'un ni l'autre groupe, selon des sources militaires Sokola 2. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Parlons à présent de cette réaction à la publication du rapport de Human Rights Watch faisant état des recrutements de rebelles du M23 par le gouvernement pour mater les manifestations. Dans un communiqué publié hier, l'Institut des recherches en droits humains invite urgemment le Parlement congolais, la Cour pénale internationale et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à diligenter des enquêtes sur la véracité ou non des révélations faites par Human Rights Watch. Hubert Chiswaka, directeur général de l'IRDH, au micro de Paul Amunanga.
Le rapport de Human Rights Watch donne des faits précis. On dit qu'on a recruté plus de 200 miliciens de M23 qu'on a amenés en RDC. Et ces miliciens ont perpétré des violations graves des droits de l'homme. Notamment, ils ont exécuté sommairement plus de 62 personnes et ils ont occasionné beaucoup de blessés et d'autres détentions arbitraires et arrestations illégales. C'est pourquoi nous demandons à ce que le Parlement congolais puisse diligenter des enquêtes pour savoir qui sont les responsables. Mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas parce que nous savons que l'État congolais est mis en cause par rapport à ces éléments. Nous demandons aussi à ce que la Cour pénale internationale, qui est déjà en train d'entreprendre des enquêtes dans d'autres affaires en RDC, puisse regarder aussi ces faits qui sont de sa compétence. Mais on ne s'arrête pas là. La RDC est un membre du Conseil des droits de l'homme. Nous demandons à ce que le bureau conjoint des droits de l'homme, qui a des représentations dans toute la République, puisse vérifier ces faits qui sont extrêmement graves.
Les révélations faites par Human Rights Watch sont tellement sérieuses et graves qu'il faut qu'une enquête soit diligentée. Et cette déclaration est du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme hier au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Les propos de Aziz Choi recueillis par Honoré Missengakalala.
Human Rights Watch, qui est une ONG internationale indépendante, considérée comme une organisation assez sérieuse qui, je pense, ne peut pas s'aventurer à avancer ce type d'allégations si elle ne dispose pas de preuves pour confirmer et soutenir ces allégations-là. Les allégations me semblent assez sérieuses et extrêmement graves de manière à pouvoir déclencher l'ouverture d'une enquête. Je pense que ce que nous pouvons attendre en termes de réaction, c'est l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces allégations-là qui sont extrêmement sérieuses et extrêmement graves. Les chiffres, les événements et les incidents auxquels se réfère Human Rights Watch concernent des éléments sur lesquels nous avons rapporté, au moins pour les chiffres liés au nombre de personnes blessées, personnes tuées au cours des répressions et des manifestations de l'année dernière.
Direction Kindu dans le Maniema, où la radio-télévision Kindu Maniema TKM a été saccagée la nuit de mercredi à ce jeudi. Selon son promoteur, le sénateur Robin Ngongo-Luowo, ces incidents sont survenus pendant l'émission à téléphone ouvert La Voix au Peuple. Toujours selon lui, cette attaque contre cette chaîne de télévision a été conduite par un officier supérieur de la police qui serait envoyé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Chadari. On écoute le sénateur Robin Ngongo-Luowo, Jean téléphone par Richard Junior Kamunga.
Il était 21h heure de Kinshasa lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Chadari, m'a réveillé pour me dire que à la radio TKM Kindu, on citait son nom. Je lui ai dit que j'allais vérifier. On m'a confirmé qu'une émission à téléphone ouvert où un auditeur a appelé pour dire que Chadari aurait reçu la visite du gouverneur Tutu et le sénateur Moulaïla qui lui aurait amené 250 000 dollars avec un salon Louis XIV. L'animateur a réagi professionnellement en disant « Non, je ne crois pas que cela soit possible. » Alors, j'appelle Chadari, je lui dis « Écoutez, d'après ce que j'apprends, c'est un auditeur qui a appelé et l'animateur a démenti. » Chadari me dit « Non, c'est un montage grossier. Moi, je suis vice-premier ministre, je vais envoyer les gens, je vais l'alerter la net. On va aller chez vous. » Moi, j'ai dit « Chez moi, je suis un sénateur avec humilité. Vous allez entrer chez moi à 23h sans aucun document de l'État. Je vérifie. » Et les gens sont entrés chez moi. Ils ont tout saccagé. Ils ont volé des émetteurs radio, télévision. Ils ont amené à la police.
Pour l'instant, le cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur contacté n'a pas voulu s'exprimer. Je l'ai dit en titre, les activités académiques ont repris normalement ces jeudis à l'université de Bounia. Après 2 jours de paralysie, les étudiants, les enseignants ainsi que le personnel administratif, technique et ouvrier ont répondu à l'appel du secrétaire général académique après la visite du gouverneur de province de l'Ituri pour constater les casses enregistrées après les accrochages de mardi entre policiers et étudiants. Explication Martial Kiza.
Les auditoires sont pleins d'étudiants depuis ce jeudi matin. Les bureaux administratifs sont également ouverts. Les étudiants disent reprendre les cours suite aux assurances données par le gouverneur des provinces face à leurs revendications. Selon Jefferson Abdallah Penembaka, la concession qui relève reste un bien de l'université de Bounia jusqu'à ce que la haute hiérarchie du pays tranche.
La position du gouverneur de province, c'est que cette concession reste à l'université de Bounia. Ça, c'est la position du gouverneur de province. Mais les dossiers n'étaient plus au niveau de la province. Et au niveau national, nous attendons. C'est notre hiérarchie. Nous attendons que la hiérarchie se décide. Et dès lors que la hiérarchie va se décider, nous allons faire appliquer ce que la hiérarchie va décider. La hiérarchie ici dont je parle, ce n'est pas le ministre des Affaires foncières, ce n'est pas le ministre de l'ESU, c'est le conseil des ministres, c'est le président de la République et il va se prononcer.
Il ajoute qu'une commission d'enquête est mise sur place pour tirer au clair ce qui s'est passé mardi dernier dans cette université. Cette commission est composée de membres du comité provincial de sécurité et des délégués de l'UNIBOU. Entre-temps, la police annonce les transferts au parquet de grande instance de cet étudiant qu'elle a arrêté pendant les manifestations pour raison d'enquête, ce que le parquet n'a pas encore confirmé. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
L'ONG Oxfam distribue depuis le 1er décembre dernier des vivres aux populations retournées à Kamonia Centre, Mayanda, Kamako, Kabilembu et environ en territoire de Chikapa, c'est au Kasai. Selon le manager de cette structure internationale dans la région, ces dons sont constitués de farine de maïs, des haricots, d'huile végétale et du sel. Il a expliqué que cette distribution qui se poursuit jusqu'au 31 décembre vise environ 90 000 personnes. Ces projets et financé par le Programme alimentaire mondial PAM. Suivez les explications de Constant Boka au micro de Blaise Ndongala.
Nous tenons par individu. Pour la dénutrition, chaque individu a 3 à 8,325 kilos de ces commodités-là. Donc si quelqu'un a 5 personnes dans sa famille, vous prenez cette quantité-là, vous multipliez par 5 et on lui donne. Ça, c'est l'équivalent d'une dénutrition pour un mois. Pour le moment, c'est les Kassai. On va intervenir dans les zones de santé où on n'a pas encore intervenu. Parce que Kassai, c'est grand. Il faut noter que depuis qu'on a commencé, oui, il y a beaucoup de retours. Quand les gens ont appris, tous les jours, les gens viennent. On passe par un recensement où on passe porte à porte, on laisse les jetons. Maintenant, après ça, nous programmons les distributions.
À travers ce projet, l'Oxfam entend aider les populations victimes de la crise née du phénomène Kamuina Sapu dans cette région. Rendons-nous dans la province du Kwilu où la voirie urbaine est pratiquement inexistante, dans la ville de Kikwit. La ville se détériore de plus en plus à chaque tombée de pluie, rendant ainsi toutes les grandes avenues inaccessibles. À cela s'ajoute la destruction de tous les caniveaux. Toutes les eaux de pluie en provenance de la cité se versent au centre-ville empêchant la circulation des véhicules et des personnes. Pour l'autorité urbaine, la ville ne dispose pas d'assez de moyens pour faire face à cette situation. Du côté de la province, le gouverneur vient d'instituer une commission devant gérer quelques recettes de la ville afin de financer quelques travaux prioritaires dans la ville de Kikwit. Le gouverneur Michel Balabala Kasongo l'a dit au micro de Fabien Kambinzi lors de son séjour à Kikwit.
Je venais de créer une commission dirigée par les membres du comité de sécurité de la ville et qui aura aussi quelques membres de la société civile. Quel est le rôle ou les objectifs poursuivis dans cette commission? Premièrement, il y a une taxe qu'on récolte ici pour le gros camion qui quitte la ville de Kikwit qui paye 50 à 25 000 francs congolais par camion. J'ai demandé que cette taxe-là soit gérée maintenant par cette commission-là. Et puis, je vais aussi prendre un arrêté pour que chaque opérateur économique puisse, à la fin de chaque mois, verser un petit rien pour l'entretien de la voirie urbaine. Mais cet argent-là sera géré par cette commission-là, qui aura comme rôle, avec bien sûr l'aide aussi de l'Office des routes et de l'OVD, faire le drainage de tous les caniveaux, nettoyer la ville et enlever les immondices.
Signalons qu'un autre que le gouverneur de province du Kwilu a également rétrocédé à la ville de Kikwit quelques taxes perçues autrefois par la province pour faire face aux difficultés éprouvées par l'entité. En bref, au Parlement, le projet de loi des finances pour l'exercice 2018 a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Le budget ainsi adopté par les députés nationaux est évalué à l'équivalence de plus de 5 milliards de dollars américains. Le vote est intervenu au cours de la plénière après approbation du rapport de la commission ECOFIN irrelatif. Le texte est ainsi transmis pour seconde lecture au Sénat avant sa promulgation par le président de la République avant janvier 2018.
Actualité Afrique Monde.
La Libye a lancé hier mercredi une campagne d'inscription des électeurs pour des scrutins dans la nature et la date sont encore à fixer dans le cadre d'un plan parrainé par l'ONU pour sortir le pays de la crise. L'annonce du lancement de la campagne a été faite par Imed Al-Saleh, chef de la commission électorale libyenne, en présence de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Selon Imed Al-Saleh, l'objectif est d'inscrire au moins 1 million de nouveaux électeurs qui viendront s'ajouter aux 1,5 million de Libyens qui s'étaient inscrits pour les législatives de 2014. La Libye compte 3,4 millions d'électeurs potentiels sur une population de 6 millions d'habitants.